France Musique.
Victor Hugo, un engagé visionnaire. Le 1er juin 1885, 1 500 000 personnes sont dans les rues de Paris. Les autorités de la République bourgeoise ont organisé le passage du cortège dans des quartiers reculés de la capitale, car on redoute un déferlement du peuple. Le matin, la rumeur monte. La foule se rassemble et s'installe sur les bords de la chaussée. On sort les paniers de victuailles, saucissons, pâtés, vin, serviettes et nappes. Certains montent dans les arbres. Mais il y a aussi et surtout beaucoup de femmes, des belles-mères, des filles, des sœurs. Elles sont toutes venues s'offrir une dernière fois au grand homme, à celui qui, dans son livre Les Misérables, a fait d'elles non pas des déchets humains, mais des victimes de la société. Sur le passage du cortège funèbre, toutes les prostituées de Paris s'offrent gratuitement. Les frères Goncourt parleront de funérailles foutatoires. Les obsèques de Victor Hugo sont en effet une grande fiesta.
Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux.
Mais qui est vraiment Victor Hugo? Le combattant derrière le poète? Le révolutionnaire derrière le grand-père? L'homme de gauche derrière le réactionnaire de droite? C'est l'entremêlement entre le poétique et le politique qui fait de Victor Hugo une figure emblématique du XIXe siècle. Sa résistance à Napoléon III, son exil, son retour à Paris marquent tout autant son œuvre que sa légende. Suivre l'itinéraire politique de Victor Hugo, c'est retracer les bouleversements qui affectent la vie de la nation. Cet homme a traversé le siècle des révolutions, la tête haute. Il n'a pas seulement été le plus grand poète, il en a aussi été la conscience politique. Conscience hésitante à ses débuts, très vite la plus lucide et la plus courageuse. Né quand le siècle avait 2 ans, sous le Premier Empire, Hugo s'adapte aux changements de régime durant la première moitié de sa vie. Ultra-royaliste quand la monarchie des Bourbons est restaurée, il suit sans la désapprouver la révolution de 1830. S'il critique parfois la monarchie de Louis-Philippe, lorsqu'elle empiète sur les libertés individuelles, il ne dédaigne pas les honneurs qu'elle lui accorde. Victor Hugo est alors l'auteur célèbre et reconnu du Roi s'amuse, de Lucrèce Borgia, de Claude Gueux où il confirme son engagement sans faille contre la peine de mort, mais aussi du recueil de poèmes Les rayons et les ombres, et enfin Les misérables. L'auteur des Orientales aime se retrouver avec les artistes de son temps. Les artistes romantiques parisiens prennent alors l'habitude de se retrouver chez le poète rue Notre-Dame-des-Champs au sein du fameux Cénacle. Ce groupe d'artistes comprend bien sûr des écrivains, des peintres et autres créateurs qui défendent l'esprit du romantisme, mais également des musiciens faits nouveaux dans l'histoire des lettres. En un temps où le public n'avait d'oreilles que pour Rossini et Meyerbeer, voire Offenbach, Victor Hugo n'hésite pas à témoigner son goût pour la musique ancienne. Plus particulièrement le compositeur Palestrina, comme nous le montre son poème intitulé « Que la musique date du XVIe siècle » dans le recueil « Les rayons et les ombres ». Parmi tous ses contemporains artistes, Victor Hugo aime retrouver le compositeur et célèbre pianiste Franz Liszt. C'est ce dernier qui lui fait découvrir la musique allemande de Beethoven. Ce dieu aveugle qui crée des soleils, celui dont les symphonies sont des voix ajoutées à l'homme. L'adagio de la sonate, dit au clair de lune, émeut le poète. Mais aussi les leaders de Schubert. Quant à Hector Berlioz, le célèbre auteur de la Symphonie fantastique, il n'hésite pas à lui envoyer une lettre enflammée à propos de Notre-Dame de Paris. « Oh, vous êtes un génie, un être puissant, un colosse à la fois tendre, impitoyable, élégant, monstrueux, rauque, mélodieux, volcanique, caressant et méprisant. » Plus tard, les musiciens se précipiteront sur les poèmes de Victor Hugo pour en composer des mélodies. Mais à partir du 4 septembre 1843, plus rien ne sera comme avant. Celui dont la création littéraire a toujours été liée à la politique vit le drame de sa vie. Il est alors dans les Pyrénées avec sa maîtresse Juliette Drouet lorsqu'il apprend la mort subite de sa fille Léopoldine. Suite au naufrage de leur barque, Léopoldine et son mari meurent noyés dans la Seine, quelques semaines après leur mariage. Victor Hugo est terriblement affecté par ce drame et sa création littéraire s'arrête pour plusieurs années. Quelques poèmes des contemplations sont alors le miroir de son désespoir. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. C'est alors l'engagement définitif en politique. À la Révolution de 1848, le vicomte Hugo a 46 ans. C'est un auteur d'avant-garde très en vogue. Il est monarchiste, chevalier de la Légion d'honneur, académicien, reçu aux Tuileries, Louis-Philippe l'a nommé père du royaume en 1845. Cet homme comblé par la gloire, la fortune, le bonheur et le génie dénonce déjà la misère, l'ignorance et le crime. Dès lors, la naissance de la Seconde République l'encourage à soutenir le nouveau pouvoir et à participer en tant qu'élu à la vie politique. Il veut défendre ses idées, mener ses combats. Hugo voulait l'influence, pas le pouvoir. La poésie est son verbe politique. Difficile toutefois pour certains de comprendre ses choix, son évolution contradictoire. Pourtant, cette destinée politique, pour le moins tumultueuse, a sa clé. La passion de la justice. Plus qu'aucun homme public, Hugo a été le champion d'une autre justice, d'une justice plus humaine, d'une justice plus fraternelle. C'est pourquoi il est le symbole même de la République, dans ce qu'elle a de meilleur et de plus pur. Inlassablement, il combat la peine de mort. Tout au long de son œuvre, dans Le dernier jour d'un condamné en 1829, Claude Gueux en 1834 ou encore 93 en 1874, roman où la guillotine est une sorte de héros fatal. Il l'a combattu entre autres à la tribune de l'Assemblée constituante en 1848, dans une intervention passionnée qu'il conclut ainsi. « Je vote pour l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort. » Le ministre Robert Badinter s'en fera l'écho et l'exécuteur dans son discours à l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981. Victor Hugo est un homme de combat. Avec la même force, il s'oppose à la déportation des condamnés politiques, qu'il appelle cette guillotine sèche. Après 1871, il dénonce la transportation des communards. Cela lui vaut des attaques furieuses, jusqu'à des assauts contre sa demeure. Parce qu'il offre l'asile politique dans sa maison de Bruxelles aux communards proscrits, on n'hésite pas à jeter des cailloux sur ses fenêtres en hurlant « Abat Jean Valjean !» Le personnage dépasse alors son créateur. Oui, Victor Hugo est contre la commune. Et oui, Victor Hugo est le seul écrivain à prendre la défense des communards massacrés. Mais Victor Hugo est aussi un visionnaire. Certes, il n'est pas le seul à appeler l'Europe à s'unir. Alors que les révolutions de 1848 ébranlent chaque capitale, le romantisme politique incarné par Chateaubriand, Saint-Simon, Michelet ou Lamartine lui font écho. Le 21 août 1849, Victor Hugo préside à Paris le Congrès de la paix. Face aux personnalités venues de toute l'Europe et d'Amérique, il déclare dans une envolée restée célèbre « Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, et vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure. » Deux ans plus tard, le 17 juillet 1851, à l'Assemblée législative où il a été élu, il s'écrit « La France a posé au milieu du vieux continent monarchique la première assise de cet immense édifice de l'avenir qui s'appellera un jour les États-Unis d'Europe. » Les choix politiques de Victor Hugo ont évolué au cours de sa vie. Le jeune royaliste devient admirateur de Napoléon avant de militer corps et âme pour la République. Mais jamais il ne renonce à l'espérance européenne, véritable point fixe de sa pensée politique. Personne, ni alors ni aujourd'hui, n'a défendu l'idéal européen avec autant de force, de talent et d'éloquence. Merci Victor Hugo. Thank you.
À réécouter sur francemusique.fr.